Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le jour où l'IA a dépassé l'artiste, le jour où Twitter a lancé le bouton Edit, le jour où l'iPhone a dépassé Android, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech numéro 475 en septembre 2022. Sachez que septembre, c'est le mois de mon anniversaire. Donc si vous avez une idée de cadeau, il y a Apple qui risque de vous en donner quelques-unes dans quelques jours, même demain. Mais à vrai dire, le véritable cadeau, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui parce que le plus grand rêve que j'ai dans le monde des podcasts se réalise de temps en temps. Et aujourd'hui, c'est un jour comme ça. C'est un jour où les Fabulous sont réunis dans mon émission. Les Fabulous, c'est Jérôme Kainborg, Cédric Deluca et Corben. Les trois ensemble, l'équipe d'Upload, tous ici. Bravo, merci d'être là. Comment allez-vous, messieurs? C'est incroyable.
Ça va bien.
Ça va bien.
C'est retour de vacances, enfoui sous les mails, mais...
C'est ça, pareil.
Donc vous êtes dit, je vais passer un petit peu de bon temps et aller dans le Rendez-vous Tech, pour une fois.
On s'est dit, on va s'en rajouter encore. Et...
voilà, ouais. Mettons-nous un autre truc au planning.
Très bien, très bien. Écoutez, j'apprécie votre sacrifice, votre enthousiasme, d'autant plus qu'on a des sujets hyper intéressants à discuter aujourd'hui. On a on va y arriver dans une seconde, mais je voudrais d'abord remercier les Patriotes qui soutiennent les émissions, qui soutiennent le Rendez-vous Tech, notamment Vetrolock, qui, je ne sais pas si c'est un very troll ou d'où vient ce pseudo, mais il est forcément une personne de qualité puisqu'il soutient le Rendez-vous Tech depuis quelques jours. Et les producteurs qui sont là fidèles et qu'on remercie tous les mois, il y a aujourd'hui Olivier Maury et Stéphane Lioret, les deux producteurs de cet épisode, auxquels je soulève mon chapeau, mais pas trop parce qu'il fait froid ici en Finlande. Je vous expliquais toutes mes aventures de pull avant de lancer l'enregistrement de l'émission. Et c'est compliqué à gérer, surtout pour les podcasts. Parce qu'en fait, je vais vous faire rentrer dans mon intimité professionnelle.
Vas-y.
Je vous ai déjà expliqué à vous trois. En fait, quand je commence les podcasts, ma température monte de genre 3 degrés en 10 minutes. Et du coup, j'ai super froid avant, parce qu'on est en Finlande, il fait genre 18 degrés dans la maison. Et parce qu'il fait genre 3 degrés la nuit. Hein, ça y est, nous, on est déjà en hiver. Mais du coup, après, je commence à avoir chaud. Il faut que j'enlève le pull. Mais en enregistrant un podcast, ce n'est pas facile si j'ai un pull que je dois enlever par la tête. Alors, il faut que je mette un pull qui est plus léger, mais qui est un pull qui a un zip, une sorte de hoodie pull. Et celui-là, je peux l'enlever discrètement sans que vous ne vous en rendiez compte au micro. Et c'est celui-là que j'utilise maintenant et j'ai dû en changer juste avant l'émission. C'est compliqué de faire du podcast. Hein.
Et pourquoi tu ne te mets pas un plaid? Voilà, ouais, comme un petit vieux, un petit plaid sur les jambes quand tu présentes l'émission, quoi.
Écoutez, et je vais réfléchir. Parce que vu qu'en petit vieux, tu t'y connais, Jérôme, tu me donnes des bons
absolument.
Conseils.
Tu crois que j'ai pris deux chats pour quoi, moi? C'est juste pour me réchauffer les cuisses. Hein,
Une dame à chat.
Exactement.
Parfait, parfait. Bah, écoutez, je suis bien content qu'on vous ait tous les trois aujourd'hui. C'est des sujets, donc, comme je le disais, qui sont intéressant et presque philosophique. Donc, vous êtes les invités parfaits pour avoir ces discussions. Et on va se lancer tout de suite avec les deux infos qu'il faut retenir. Et la première d'entre elles mérite bien cette musique majestueuse, puisque, messieurs, dames, ça y est, c'est arrivé. Le jour où une IA a dépassé un artiste est arrivé. Et ça a provoqué tout un bordel dans les cercles artistiques. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé et puis on va en discuter. D'abord, les faits. Il y a eu une image générée par une IA qui a gagné la première place dans un concours au Colorado, qui était un petit concours dans l'état du Colorado. qui n'était pas un gros, gros concours d'État, hein, genre, c'était juste au Colorado. Et l'image a gagné la première place. Et je cherche comment changer mes scènes dans Twitch, auquel je dis bonjour, parce que mon Stream Deck ne marche plus avec Twitch, avec OBS 28. Si vous avez des idées pour reconnecter le Stream Deck et OBS, je suis preneur. Mais donc, cette image-ci a gagné le concours et ça a provoqué donc tout un tas de discussions, évidemment, sur Twitter, parce que une image générée par une IA qui bat des vrais artistes, c'est forcément un moment important et puis quelque chose de discutable. Alors, de quoi il s'agit ? C'est une image qui a été générée par, c'est pas Midjourney, si je ne dis pas de bêtises, c'est Stable Diffusion, qui est l'un des trois moteurs de génération d'images à la mode en ce moment. C'est assez beau. C'est une image qui a été générée en demandant une image de Space Opera, mais ça a l'air d'être une image peinture à l'huile, hein, vraiment détaillée. Et donc, c'est un space opéra, un opéra dans l'espace. C'est une image entre fantasy et science-fiction avec ces contours un petit peu flous qu'on voit souvent dans ce genre d'image. C'est très, très beau. Franchement, si on ne m'avait pas dit que c'était généré par une IA, je ne l'aurais pas su. Mais ça, ce n'est pas le truc le plus notable parce que des images générées par des IA qui sont crédibles, on commence à en parler depuis un moment et on en a déjà parlé dans les émissions. Le truc qui est vraiment différent cette fois-ci, c'est que donc elle a gagné la première place. Le type qui a généré cette image est allé s'en vanter sur Twitter et ailleurs. Et il y a des artistes qui ont relevé cette chose et qui ont dit, qui se sont dit, oui, c'est vraiment la merde, une image générée par une IA a gagné le concours, etc. etc. Et donc, ça y est, les artistes commencent à être mis au rebut. Bon, ça, j'extrapole un petit peu, mais il disait texto dans le tweet, « Yeah, that's pretty fucking shitty. » Donc, c'est putain de pourri. Et la manière dont l'image a été générée et la manière dont la personne en parle a ajouté de l'huile sur le feu et du feu sur l'huile, parce que dans la communauté des gens qui génèrent des images générées par IA, c'est donc des utilisateurs, hein, pas les programmateurs, mais des utilisateurs qui peuvent avoir accès à ces outils un petit peu assez facilement. Ils se vantaient donc de sa victoire en disant « Oh, j'ai vraiment sué pour faire le bon prompt, donc la bonne demande à l'IA. Et donc, j'ai travaillé super dur et je suis bien content d'avoir gagné la première place avec ce truc théâtre d'opéra spatial. » C'était le créateur est un Français, puisqu'il a dit ça en français, j'imagine. Et du coup, il y a deux questions qui se posent. D'abord, il y a... Ah, on me dit c'est bien Midjourney. Ça ressemble à Midjourney, effectivement. Donc, ce n'était pas Stable Diffusion, autant pour moi. Il y a deux questions donc, qui se posent. D'une part, peut-être que c'est déjà arrivé par le passé, mais c'est la première fois qu'une image gagne un prix d'un concours, une image générée par une IA gagne un prix dans un concours. C'était dans la catégorie image manipulée par informatique, donc manipulée numériquement. On ne sait pas si les juges avaient connaissance du fait que c'était une image entièrement générée par une IA. J'imagine que non, mais c'était quand même dans la partie image manipulée. Alors, généralement, manipulée, ce qu'a fait d'ailleurs le créateur, ça veut dire qu'on rajoute des petites touches ou des choses comme ça, ou qu'on les fait soi-même avec un stylet sur l'ordinateur. Donc, je pense que ce n'est pas exactement ce genre de choses qu'on attend dans cette catégorie. J'imagine donc que les juges ne savaient pas, c'est ce qu'il semble, que c'était une image générée par une IA. Donc, il y a ça d'une part, une image générée par une IA a gagné un concours. Et ça nous paraît, c'est marrant à quel point ça va vite, hein, parce que aujourd'hui, ça ne nous paraît pas si étonnant que ça. Il y a, je dirais un an, même 6 mois, on se serait dit « Ah bah le jour où ça arrivera, ça sera quand même incroyable. » Et aujourd'hui, on en a tellement vu des superbes images générées comme ça que c'est juste « Ah bah ok, oui, on en a trouvé une. » Ça a été à une vitesse hyper rapide. Et l'autre question, c'est le créateur et la communauté qui travaille sur ces outils qui explique à quel point il est difficile de créer des images de ce type-là avec les bons mots, les bons mots-clés, etc., qui a une sorte de clash, alors c'est petite échelle, hein, mais une sorte de clash avec les, entre guillemets, vrais artistes qui, eux, travaillent véritablement à peindre et dessiner leurs œuvres, c'est un truc qui est intéressant aussi. Donc, je vais vous laisser la parole à tous les trois. Vous pouvez choisir, vous battre, faire un concours d'images pour décider qui peut parler en premier. Mais sur ces deux sujets, je crois qu'il y a pas mal de choses à dire. Peut-être, Jérôme, je vais te poser la première question. IA versus artiste, est-ce que c'est une question qu'on a déjà posée par le passé, mais qui là a un tournant vraiment concret? C'est vraiment une IA qui a battu des artistes dans un concours. Est-ce que là, c'est le moment où on peut dire, ça y est, là, on est à un tournant, et c'est le moment auquel on peut pointer pour dire, oui, là, on y est arrivé, quoi.
Personnellement, je pense que c'est un faux débat. C'est un débat qui est aussi vieux que la notion d'art, sans faire de la philo à la petite semaine, mais qu'est-ce qu'un artiste? Qu'est-ce que l'art? Est-ce que, tu vois, il y a deux mots que tu as employés dans la description qui sont intéressants. Le travail de l'artiste et la vision qu'on a du travail. On est formé de notre culture à reconnaître la valeur de quelque chose par l'effort que ça a demandé. En gros, un travail a plus de valeur parce qu'il a demandé des heures à un artiste qui met de la peinture sur une toile. Ça a plus de valeur qu'à un artiste, par exemple, contemporain, qui renverse un seau de peinture en disant « ça, c'est beau, ça, j'affiche ». Et en fait, l'art, c'est pas du tout ça. Parce qu'à ce moment-là, par exemple, la photo n'est pas de l'art. La photo, on va dire qu'en termes pictural, ce n'est pas un photographe qui va mettre des pixels un par un sur un truc. L'art, c'est un choix, c'est de dire ça, c'est beau, ça véhicule quelque chose, c'est une émotion que je veux partager, je veux surprendre. Je pense même la démarche de faire une œuvre par IA fait partie d'une démarche artistique, puisqu'elle crée la polémique. La polémique est toujours au cœur de l'art aussi.
Surtout, c'est des nouvelles formes d'art, en plus.
Voilà, l'art contemporain insiste beaucoup sur l'acte artistique, pas sur le travail artistique ou l'artisanat artistique de « je suis allé chercher mes pigments en haut d'une montagne au Pérou, ça m'a pris 3 ans ». Ça te fait pas un meilleur tableau, en fait.
Ouais.
Je sais que c'est difficile à appréhender. On a souvent ce débat autour de l'art.
Oui,
la banane scotchée sur le mur.
C'est ça, mais ça monte même plus loin. Les impressionnistes étaient décriés.
Je pense qu'un mec qui a soufflé du pigment de mammouth sur une caverne autour de sa main, il y en a un qui lui a dit c'est pas de l'art, ça. Et l'autre a dit si, moi je trouve ça beau, quoi. Je suis désolé, mon grand, mais moi je trouve ça chouette. Donc pour moi, mais c'est typique de l'art. On le voit beaucoup en art contemporain en ce moment. Effectivement, pour moi, l'IA n'est qu'un outil artistique. Et vraiment, alors je suis peut-être un peu extrême, ça n'enlève aucune valeur à l'œuvre. Parce qu'il le dit d'ailleurs dans le descriptif, il a quand même choisi ce tableau à présenter. Mmh. Et même si ça lui a pris 2 secondes, choisir est un acte artistique. Parce que alors, c'est pas une IA qui a décidé le tableau qu'elle allait présenter au concours.
On n'en est peut-être pas très très loin, hein, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Il y a quand même, dans le travail du photographe, c'est vrai, des choix qui sont faits, mais aussi une certaine maîtrise technique de l'outil, et puis...
De moins en moins.
D'accord.
Tu maîtrises le cadrage, le choix du sujet. En fait, la photographie, c'est surtout des choix. Mais techniquement, justement, on en arrive à la photo smartphone. Tu as des photographes qui disent que ce n'est pas de la photo artistique sur un smartphone. C'est complètement faux. Même si ta photo est complètement assistée au niveau de l'exposition, les ISO et tout ça, le choix du sujet, le cadrage, donc le choix artistique, reste le tien.
Bon, disons que on a quand même une amplitude de technicité qui se réduit quand on est assisté, et c'est un débat qu'on pourrait avoir, et puis on pourrait avoir le débat sur tout l'art, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même une étape qui est franchie avec la question de la génération par IA. D'accord, c'est quelque chose de différent, mais je pense que il y a une différence. Je me fais un tout petit peu. Et même pas vraiment en même temps. Je pousse en disant que c'est l'avocat du diable, mais il y a quand même une différence d'échelle entre je dois apprendre à maîtriser la technique, que ce soit la peinture ou même la photo, et je dois apprendre les bons mots à rentrer dans ma requête pour générer une image. Non seulement on supprime complètement la compétence technique, mais on facilite de manière drastique le choix. Moi, j'ai fait par exemple quelques requêtes sur Midjourney. On essaiera de les mettre en illustration pour le podcast. Si vous voulez aller sur le blog sur frenchspin.com pour les voir, j'ai mis the day AI surpassed the artist ou un truc comme ça. Ça a donné des trucs vraiment qui pourraient être considérés comme de véritables œuvres d'art. Et j'ai vraiment rien fait du tout. Enfin, si, j'ai écrit une phrase. Donc, je suis d'accord qu'il y a une question de choix et qu'est-ce qui est de l'art, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que là, il y a une étape vraiment qui est franchie dans la facilitation de la création d'œuvres ?
Mais en fait, c'est un débat autour de l'art. À ce moment-là, une banane scotchée à un mur, qui ne requiert aucune technique à part dérouler du scotch et coller la banane sur le mur de manière satisfaisante, à ce moment-là, ce n'est pas de l'art. Mmh. Et d'ailleurs, le débat a lieu.
Ouais.
Et dans l'art contemporain, il est constant, ce débat.
C'est vrai.
Et qu'est-ce que l'art ? Bah, c'est finalement une question qui fait partie de l'art. Parce que là, tu vois, tu nous montres trois images. Tu as choisi trois images à nous montrer. Quand même.
Oui.
Donc, tu pourrais aussi décider, par exemple, de laquelle de ces trois images est celle qui t'a provoqué quelque chose.
Mmh. Et on pourrait, pour retourner le truc, on pourrait décider, je vais coller une banane ou renverser un saladier ou jeter du sucre partout sur la cuisine et décider que ça, c'est de l'art ou ça, c'est pas de l'art. C'est pas plus compliqué que de mettre des requêtes
l'art
dans
une journée. L'art ne, et c'est une erreur commune, mais l'art ne se mesure pas à la technique pour arriver à une œuvre.
Mais quand même on est.
Non.
Est-ce qu'on devrait pas avoir une catégorie, peut-être se retrouver à mi-chemin, je perds mes expressions, et dire ces trucs-là devraient quand même être dans leur propre catégorie, une sorte de ségrégation artistique, tu vois, les trucs générés par IA, ils sont dans la catégorie. Ok, c'est de l'art, mais ils sont dans leur catégorie, et les trucs où les gens prennent vraiment le temps de peindre avec leur petit pinceau pendant des jours et des jours. C'est une autre catégorie, c'est un autre type de travail.
Pour moi,
c'est pas de l'art.
Vas-y. Corben, il sent que bientôt il y aura les blogs écrits par des IA et il dit non, mais qu'est-ce que c'est?
Je suis pour ça. En fait, je suis pour ces trucs-là. Je suis fan, mais pour moi, c'est pas de l'art, c'est de la génération d'images, on va dire assistée par ordinateur, donc c'est très cool. Mais pour moi, l'art, c'est il y a une réflexion, tu vois, c'est faire passer un message, etc. Donc si tu fais passer ton message en générant une image. Enfin, tu vois, si la démarche, elle passe par là, c'est cool. Mais si c'est juste générer une image pour générer une image, il n'y a pas de message derrière. Tu vois, c'est un peu du random.
Il n'y a pas d'intention.
Alors après, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont chier sur une toile. Et après, seulement, ils vont trouver un message ou dire voici ce que ça représente et tout. Mais en fait,
parce que là, on pourrait l'interpréter, hein, cette image, avec le cercle de lumière et les trois personnages ou quatre personnages devant.
A posteriori, tu peux toujours interpréter. Moi, je te parle de ça si c'est fait a priori, quoi, juste avant. Donc pour moi, c'est pas. Enfin, c'est très beau, c'est de l'art, oui, c'est de l'art. Mais c'est pas de l'art au sens. Messages, réflexions, etc. Quoi. Donc, après, les artistes qui gueulent contre ça, je trouve ça un peu bidon comme façon de faire. Parce que,
ils se sentent lésés un petit peu, je peux comprendre.
Ils se sentent lésés, mais bon, là, en fait, là, ce qu'il faut plutôt s'interroger, c'est sur comment le jury a fait son choix. Est-ce que le jury a fait son choix sur le message ? Est-ce qu'il y avait un message derrière ou pas ? Est-ce que c'était juste sur la beauté du truc ? Si c'est purement la beauté graphique, c'est que les artistes qui étaient en compétition avec cette image ont fait des choses qui étaient moins belles, c'est tout, moins jolies. Mais après, le risque aussi qu'il y a avec ces outils, c'est que ça va peut-être aussi, mettre une espèce de norme artistique sur ce qui est beau, en tout cas sur ce qui est généré par IA et qui est reconnu comme beau. Parce que là, tu vois, il y a du clair-obscur, c'est noir, c'est... Enfin, voilà, il y a des trucs un peu...
Oh, c'est, elle est objective, je pense qu'objectivement, elle est assez belle, cette image.
Elle est très très belle, mais... Mais peut-être que bah, moi je trouve ça bien parce que peut-être que les artistes vont commencer à peut-être à réfléchir un peu plus sur soit qu'est-ce que c'est que faire de l'art, soit comment faire des choses plus jolies que ce que font
les IA. Il y a une autre question qui se pose. Je pense que les artistes réfléchissent déjà beaucoup sur ce qu'ils font et sur eux-mêmes, mais il y a une autre, enfin deux autres questions qui se posent. L'une qui est la question de la technique, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous, les auditeurs, ont pris le temps d'aller voir sur Midjourney, qui est facilement accessible, qui est celui, l'outil qui a été utilisé ici, qui passe par Discord. Il disait, le créateur, j'ai vraiment trimé pour obtenir une requête qui donne quelque chose d'intéressant. Il faut avouer que quand on voit passer les requêtes des gens, c'est pas facile. Il y a une sorte de technique. Je contredis un petit peu ce que je disais tout à l'heure, un petit peu intentionnellement, mais il y a une sorte de technique pour trouver les bonnes requêtes avec les bons mots-clés pour obtenir une image qui va correspondre au résultat que tu veux obtenir. Alors, c'est pas comme apprendre pendant 10 ans à manipuler du pinceau et des pinceaux et de l'aquarelle, mais il y a quand même, c'est pas juste qu'on y va, on tape une phrase et on obtient un truc. Il y a quand même une certaine technique là-dedans. Et c'est ce que mettent en avant ces gens-là, ce que je peux comprendre quand on l'a testé. L'autre aspect, c'est sur quoi ça a été entraîné, qui est aussi une question qui est mi-philosophique, mi-légale, et dont on avait déjà parlé, qui est, ça a été entraîné sur des images disponibles en libre accès sur Internet souvent, et on a vu des études qui montrent que une immense partie vient de certaines sources spécifiques qui sont disponibles, mais qui sont donc le travail d'autres artistes. Mais ça, on en avait déjà parlé, c'est comme un artiste qui s'inspire de ce qu'il voit autour de lui.
En plus, est-ce que c'est pas un débat qu'on a déjà eu lieu avec l'arrivée du hip-hop, de la techno et tout ça, où on crée de la musique avec de la musique déjà existante? C'est la même chose.
Mais c'est exactement ça.
Du coup, Cédric, si on élargit un petit peu la question, là, la première étape, c'est les images. À vrai dire, ce n'est pas vraiment la première étape, parce que dans le texte, on a déjà réussi à créer des
textes crédibles. Il y a
de la musique aussi, mais du coup, moi, je place le marqueur ici à cette étape. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais il a gagné $300, hein, le type. Donc, ce n'est pas non plus, comme je le disais, un grand concours. Mais je place le marqueur là parce que c'est symbolique. Mais on est en train d'arriver dans un monde où une IA peut vraiment générer des œuvres dans plein de domaines différents qui sont, on va dire, dans la même catégorie, dans la même ligue que des œuvres générées par des artistes humains. Que sera le monde de demain quand on a ce
je pense que c'est toi qui le disais, mais dans ce genre de concours d'images modifiées numériquement, l'IA est un outil qui est différent de Photoshop, hein. Bien que Photoshop embarque quelques algos quand même. Mais l'idée globale, c'est plutôt de dire elle devrait être dans un concours d'images générées par IA, en fait. C'est comme si au tennis, d'un coup, on se mettait à avoir des joueurs qui jouent en double et d'autres qui jouent en simple, enfin...
Ou alors un joueur qui joue contre une machine qui a une raquette à la main et qui a des capteurs qui peuvent choper chaque...
Exactement, qui chope des balles à 300 km/h alors que humainement, c'est pas possible, en fait. Donc, c'est intéressant techniquement de voir qu'on peut en arriver à ça. Ça va sans doute servir à plein de choses. Imaginons aujourd'hui des banques d'images libres de droit ou ce genre de choses. En fait, on peut très bien imaginer qu'on peut arriver à générer des images grâce à une IA qui nous permettrait, en gros, de ne pas utiliser des images d'artistes connus. Voilà, tu le sais toi-même, même Jérôme aussi, et Corben aussi, en fait, les problèmes DMCA qu'on a dans tous les sens, avec de la musique qui est parfois libre, puis du jour au lendemain, elle n'est plus, et du coup, on se retrouve avec des segments de vidéos coupés, ce genre de trucs. Si on a une IA qui génère de la musique totalement random à partir de mots-clés que nous, on a tapés, qui n'est pas déposable, etc., ça peut régler, en fait, certaines problématiques. De là à changer le monde juste parce qu'une IA est capable de nous pondre une, certes, très belle toile, je ne suis pas certain, en fait. On est plus dans la prouesse technique, tu vois, on sait faire. Ben, les machines savent faire, on a entraîné le modèle, etc. On a la techno pour regarder les applications et les cas d'usage, en fait. Est-ce que vraiment ça va mettre les artistes au chômage? Je crois pas, en fait.
Si je peux juste ça peut-être rajouter
rendre
un
certaines
truc.
Choses accessibles, mais voilà.
Moi, je pense que ça mettra pas les artistes au chômage. Par contre, tout ce qui est artisan de l'image, les illustrateurs, comme tu le disais très bien, moi, j'ai fait un métier avant de faire toutes ces conneries sur YouTube. J'ai fait un métier où j'achetais des photos à des photographes et des illustrations à des illustrateurs qui avaient une technique et qui faisaient un travail d'artisanat. Ces gens-là vont disparaître. Et ça, c'est très inquiétant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on l'a déjà vu, hein, moi j'ai un collègue qui est encore dans le métier, il m'a dit pour la dernière plaquette pour une banque, on a pris des visages générés par ordinateur pour plus avoir à payer des mannequins, des photographes et tout ça, parce que ça c'est au point. Et tu fais un catalogue de vacances, tu veux des illustrations de palmiers, tu vas plus te faire chier à faire travailler un illustrateur. Mmh. Tu vas passer par une IA qui va te le faire. Donc c'est plutôt ces métiers-là. Après, un artiste, c'est autre chose, l'art, que l'artisanat. C'est deux choses différentes. Les deux mots n'existent pas par hasard. C'est un autre besoin. Si cette image vous a généré une émotion, et moi, elle m'en a généré une, je trouve que cette image est très belle. Et je trouve qu'il y a quelque chose de profond dans cette image. Moi, ça m'a rappelé Fondation et tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose. Finalement, est-ce que c'est pas le plus important? Parce que les compétitions d'art, on sait ce que ça vaut. On s'en fout, en fait, d'une compétition d'art. Comment on juge l'art? Enfin, il y a plein de questions métaphysiques autour de l'art à se poser autour de ce tableau. Mais ouais. C'est le fait
est-ce
même de l'appeler un tableau.
Est-ce que le char à voile ou pas? Enfin, voilà. Ouais.
Moi, ce que je dirais, c'est que toutes ces questions sont importantes, évidemment, et c'est important Freudian sleep, comme on dit en français, le sleep de Freud. Mais le truc, si on étend un petit peu, tu disais, Cédric, oui, bon, ça ne va pas changer grand-chose. Moi, je crois que ce que ça veut dire, c'est que ça amène dans tous les domaines de la création la possibilité de créer du contenu, des briques de contenu, de manière infinie. Je simplifie un petit peu, c'est pas très facilement, on peut créer une infinité de briques de contenu. Et peut-être même une infinité de contenu plus ou moins fini. Et là, on est vraiment aux premières étapes. On peut tout à fait imaginer, par exemple, ne plus aller chercher dans des banques d'images, par exemple, aller chercher des images existantes, mais faire une requête, et je dis on veut imaginer, c'est exactement ce qui se passe, faire une requête, et puis obtenir le résultat et l'utiliser. On y pensait d'ailleurs, nous on a cette problématique en tout petit, en mini, avec les émissions. On a une illustration qui est utilisée uniquement sur le blog et puis sur Twitter. Et à chaque fois, on va chercher sur les Pexel, les Pixabay, les endroits, les banques d'images gratuites, une illustration qui correspond. Et on en parlait avec Fanny. On se disait, peut-être qu'on pourrait utiliser ce type d'outil. Alors, c'est encore un petit peu abscon.
Générateur de vignettes YouTube.
Mais exactement. Ouais,
on n'en est pas loin. Hein.
Mais exactement, on est à la porte de... on prend... des briques et le travail peut-être d'illustrateur va se transformer en arrangeur de ces briques ou choix de l'image générée qu'il faut, peut-être la retoucher un petit peu, faire des bonnes requêtes comme il faut. Et on n'est pas loin de, je ne sais pas moi, par exemple, générer un podcast. Je vais prendre mon cas, on ne va pas parler de Corben, on va le laisser tranquille avec son blog de qualité. Mais pour des podcasts, on pourrait dire, on prend tel et tel et tel article, on... fait un résumé par IA, parce que c'est possible, et puis on le lit, ou même on fait un résumé expliqué, et puis on le fait lire par une IA, et puis on met une musique générée par une IA avant, puis on upload automatiquement ça sur le podcast. Franchement, on n'est pas du tout loin de pouvoir le faire. Donc on a intérêt à être à amener de la personnalité et des choix, peut-être, pour...
Mais moi, je veux ça. Par exemple, tu vois, je me dis, j'ai une idée de sujet et tout, cool. J'aimerais bien moi, que l'IA génère tout l'article pour moi et après j'ai juste à mettre des blagues, changer les trucs qui me vont pas, machin, remodeler en fait le contenu. Mais on va dire le côté pénible de la recherche documentaire et même de la rédaction serait largement allégé, quoi.
Il te faut un GitHub Copilot de la rédaction, quoi.
Ouais, le Copilot de GitHub, par exemple, qui fait ça pour le code. On nous dit ça finira avec l'adaptation par une IA d'un livre en film. On pourrait arriver à ça. Un livre qui est lu par une IA et puis qui génère des images. Enfin, des... là, on a des images statiques. Mais
ouais, bon, la dernière fois qu'ils l'ont fait, ça a donné Dragon Ball. Hein, donc,
donc, peut-être à éviter. Pardon, Jérôme, tu vas conclure. Tu as le mot de la fin.
Ouais, non, non, mais on en revient. Mais c'est une question hyper intéressante. Qu'est-ce qui fait l'humain ? Est-ce que c'est la décision ou la maîtrise d'une technique ? Comme dit Corben, un article, si c'est pas lui qui l'a écrit, mais il va quand même décider, rajouter des petites choses, des petites blagues, etc. Vu que la demande, finalement, elle est de génération de plus en plus de contenu, de moins en moins cher, les artisanats qui sont utilisés des outils de l'art pour produire des choses, du contenu, vont forcément chercher des moyens plus performants de produire de plus. Moi, je le dis très honnêtement aussi, les vidéos YouTube, si toute une partie qui est laborieuse et longue pouvait être générée par l'IA, j'aurais pas l'impression d'être dépossédé de mes vidéos. Mmh. Et tu vois, il y a des phases dans le montage qui sont aujourd'hui des heures et des heures de travail. Si une IA pouvait faire ce travail qui est chiant et laborieux, je me sentirais pas du tout dépossédé de mes vidéos.
Oui, mais tu utilises comme un outil, quoi. C'est un espèce de file and cut, mais qui fonctionne en automatique. Mais
et ça me permettrait de faire 10 vidéos par jour, quoi.
Ouais. Déjà qu'on a une surabondance de contenu, oui, donc il va falloir... en fait, il faut être curateur. C'est ça le boulot intéressant aujourd'hui.
Mais il y aura une IA pour faire la curation.
Le boulot, ça va être d'humaniser. Ça va être d'humaniser le boulot des IA, quoi.
Moi, je suis pas
de choisir, en fait.
Ouais. Oui, c'est ça, la curation. Je suis partagé entre l'idée... Comment, Rodin, tu n'as pas utilisé tes mains et tes ongles pour faire tes sculptures. Tu as utilisé un outil, ton burin. Mais enfin, tu n'es pas un vrai artiste. Tu vois, genre, pour pousser à l'extrême le raisonnement. Et en même temps, quand je prends deux pas de recul et je regarde le travail impliqué, je me dis... Ouais, enfin, quand même, il y a quand même une différence entre le fait de mettre 3 mots dans la requête, ou bon, 50 mots dans la requête, et le fait de vraiment peindre le truc. Mais tout ça, c'est des questions qui seront peut-être, vaines, et le monde de demain sera fait de la manière qu'on imaginait à l'instant, avec une création de contenu infini, et c'est même pas la question de savoir est-ce que c'est de l'art ou pas, ça va être là. Et donc, je suis sûr qu'on va l'utiliser, il y a plein de gens qui vont l'utiliser.
On n'est pas choqué de savoir que, par exemple, les peintres de la Renaissance, les 3/4 de leurs tableaux, c'était leurs assistants qui peignaient.
Tout à fait,
Moi, honnêtement, je pense que c'est un faux débat. Mais par contre...
Bon, ben moi, je n'ai pas demandé à Siri de peindre un truc, tu vois.
Ouais. Non, il vaut mieux pas. Elle va t'éteindre tes lumières, c'est tout ce que ça sait faire.
Ou me dire, voici ce que j'ai trouvé sur Internet.
Ouais, voilà. C'est ça. J'ai trouvé une image générée par une IA. Bon, écoutez, si vous postez votre opinion sur Twitter et que vous êtes véhément et que vous vous dites tout à coup « Ah merde, j'ai écouté le rendez-vous tech et maintenant je comprends les enjeux réels de toutes ces questions, je vais aller modifier mon tweet », eh bien vous pourrez peut-être bientôt le faire, puisque notre deuxième sujet, c'est le fait que Twitter teste enfin le bouton d'édit des tweets, le bouton d'édition des tweets. Alors, c'est un test pour le moment, c'est réservé aux utilisateurs de Twitter Blue. Si vous ne savez pas ce que c'est Twitter Blue, c'est un service d'abonnement à Twitter qui coûte $5 par mois, je crois, qui est disponible uniquement aux États-Unis. Et il permet d'éditer les tweets pendant... Oui, si, c'est ça, c'est $5 par mois, pardon, je croyais m'être trompé sur le prix. Et il permet d'éditer pour le moment pendant une demi-heure et il inclut un label qui indique que le tweet a été édité et il inclut en plus un historique de toutes les versions du tweet jusqu'à la version que vous voyez aujourd'hui. Bien sûr, l'idée étant de limiter la possibilité de frauder ou de diffuser de la désinformation ou de hacker d'une manière ou d'une autre, de rendre un tweet viral et puis de changer son contenu comme le craignent certains. C'est quand même un moment important dans la vie de ce réseau social qui est le pouls de l'Internet. Le bouton éditer a été réclamé par l'intégralité de la population utilisant Twitter. Depuis des années et des années, Twitter a souvent dit qu'il ne le ferait pas. Jack Dorsey, le PDG, le créateur et PDG, a longtemps dit qu'il ne le ferait pas, maintenant qu'il n'est plus là depuis quelque temps. eh bien, ils se lancent. C'est peut-être aussi un moyen de monétiser la plateforme un petit peu plus, parce que c'est une fonctionnalité que beaucoup de gens veulent. Est-ce que cette implémentation, s'ils la gardent telle qu'elle, c'est la bonne? Est-ce qu'on a besoin d'édition de tweets? Est-ce que vous voudriez une implémentation différente? Cédric, est-ce que tu vas commencer à payer pour pouvoir éditer des tweets ou éditer tes tweets? Qu'est-ce que tu penses de ça?
Je ne sais pas si vraiment je tweetais beaucoup, peut-être. Mais moi, je trouve que la fonctionnalité telle qu'elle est implémentée là aujourd'hui est dangereuse. Je fais partie des gens qui pensent que voilà, tu balances un truc, c'est retweeté, puis là, tu modifies ton tweet, même s'il y a écrit le edited dans un coin pour signifier que ça a été modifié. Tu peux dire totalement l'inverse de ce que tu voulais dire. Je pense qu'il n'y a pas de système simple pour ce truc-là. En général, le bouton edit, les gens le voulaient non pas pour modifier le sens de ce qu'ils disent, mais pour régler une coquille orthographique ou voilà, ce genre de choses. Hein. C'est vraiment ça, en fait, l'idée. Donc, limiter au nombre de caractères aurait pu être... Pourquoi pas la solution? C'est genre, tu peux modifier ou
genre
ajouter...
10 caractères et pas... Ou 100,
beaucoup,
mais pas...
Hein. Ça veut dire que tu as fait 10 fautes en 140 caractères. C'est que, bon, vraiment, ton problème, c'est plutôt le Becherel. Mais tu vois, il n'y a pas un bouton Becherel. Mais si c'est 5 caractères, tu vois... Parce que même avec 5 caractères, tu peux juste rajouter un note dans un tweet et dire l'inverse, en fait, de ce que tu voulais dire, tu vois, en anglais. Donc, comme dans Note Patrick... Donc,
et oui, notre Patrick est l'inverse de Patrick, vous le savez.
Eh ben exactement. Donc,
donc ça veut dire qu'il est méchant, moche, ou j'aurais dû dire.
Ouais, moi, moche et notre Patrick. Mais l'idée de base pour moi, enfin, modifier le tweet parce qu'il y a un problème d'orthographe, je trouve ça tout à fait légitime. Je pense que l'implémentation telle qu'elle est faite aujourd'hui, par contre, est dangereuse. Voilà, ma conclusion, c'est. Je ne paierai pas pour ça, ça c'est sûr. Et. Je trouve même que c'est dangereux, voilà, simplement. Je trouve que c'est hyper maladroit. Twitter, franchement, je commence à en avoir ras-le-bol. Il y a une polémique par semaine autour de ce réseau social, ça devient vraiment ultra pénible, ne serait-ce que par l'annonce
d'hier,
tout un tas de choses. Ouais, mais ça date pas d'hier, mais tout le monde est en train de se mettre à la page sur les autres réseaux, alors pas totalement, hein. Mais Twitter reste quand même encore le seul endroit où c'est encore le Far West absolu sur absolument tout. Alors, c'est bien en même temps, parce que c'est encore un espace de liberté où on peut dire ce qu'on veut, mais je trouve que les gens qui enfreignent la loi, on les entend un peu trop par rapport aux gens qui...
Bon, ça, à la limite, c'est un autre débat, d'ailleurs.
C'est un autre sujet.
En parler un petit peu plus tard.
Le bouton edit, justement, pour faire du phishing, du scam, tout ce genre de conneries, c'est parfait, quoi.
Alors, moi, c'est une idée que mettent en avant certains experts en sécurité. Il y a quand même, bon, tu le mentionnais, mais il y a le petit label édité à tel moment. Et puis, on n'a que 30 minutes. L'idée qu'un tweet va devenir super méga viral en 30 minutes et puis être modifié, à moins que ça soit
mais
fait
regarde
par une
la population
personnalité
de bots.
Hyper connue.
Non, mais mais c'est ça. Et regarde la population de bots... peut te mettre en train d'un truc parce qu'il est retweeté dans les 30 minutes un nombre de fois incalculable. Enfin, pendant les élections, par exemple, c'est là où le plus...
Oui, mais enfin, il y a quand même le label édité. Tu peux voir les tweets d'avant, non?
Oui, mais est-ce que tu vas le voir? Est-ce que...
Corben, tu trouves aussi qu'il n'y a pas assez de restrictions, de limitations? Tu veux... c'est un petit peu l'inquisition avec Cédric. Tu ne peux avoir que 5 caractères que tu peux modifier.
En fait, moi si je prends juste un besoin que j'ai, c'est vrai que quand tu fais une faute de frappe, là, t'as 50 000 personnes qui te tombent dessus pour te dire que t'es un abruti parce que t'as oublié un S, un mot. Donc, ce qu'il faut faire, c'est supprimer le tweet et le recréer. Donc, c'est relou parce qu'après, les tweets, tu sais, des fois, ils partent sur Facebook et tout. Donc, c'est un monde... C'est vraiment pénible, quoi. Souvent, je supprime le tweet et je le refais plus, quoi. Tu vois, ça part aux toilettes. Mais après, j'ai pas poussé la réflexion plus loin que ça. Disons, côté pratique, ça me serait pratique. Pas au point, effectivement, de modifier, de tout changer dans un tweet, mais juste de corriger une coquille, ouais. Maintenant, je pense que ça devrait être limité, peut-être en temps, tu vois, que tu puisses corriger.
Bah, c'est limité à 30 minutes. C'est peut-être un
ouais,
peu
voilà,
long.
Ouais, voilà. Je le savais pas, mais voilà. OK, sur 30 minutes, bon, voilà, c'est pas mal. Mais après, effectivement, pour manipuler des trucs, quelqu'un pourrait par exemple pirater un compte Twitter, hein, ça s'est déjà vu, et puis aller changer des choses qui ont été dites bien bien avant pour après après va prouver que, enfin tu vois.
Bah va prouver. Non mais je comprends les préoccupations, mais comme on le disait, 30 minutes, peut-être qu'ils le réduiront, hein, peut-être que que Cédric a raison et que 30 minutes, c'est trop long. C'était d'ailleurs l'une des préoccupations. La durée était trop longue quand on parlait de messages envoyés par iMessage qu'on peut supprimer. Bon, c'est une chose un peu différente, mais peut-être qu'ils réduiront la durée. Mais il y a quand même le label édité. Tu sais qu'est-ce qui a été modifié, à quel moment. Bon, c'est quand même relativement restrictif, je trouve. Jérôme, je suis le seul à être satisfait des mesures en question.
Non, toi, tu moi, me rejoins. Alors, je vois les dangers et tu as toujours des gens mal intentionnés qui vont trouver des failles, que tu mettes 5 minutes de délai ou 30 minutes de délai. Je trouve que 30 minutes, c'est un peu long. Parce que ça permet de complètement reforger ton tweet pour réagir. Si les gens ne le retweetent pas, bah, comme disait Cédric, tu mets un note devant et tu changes complètement le sens d'un tweet. Dans le cas politique, ça peut être dangereux. Néanmoins, moi, je me mets à la place et tu vois, moi, je ne parle pas en tant que Jérôme Kenborg, mais au niveau de l'entreprise. Quand tu mets une mauvaise URL ou tu as fait une faute d'orthographe, sur un tweet qui est sponsor ou quand t'es dans le cadre d'une OP. Bah ouais, mais c'est des petits incidents industriels qui sont pénibles et chiants. Après, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut pas apprendre aux gens aussi à relire avant d'appuyer sur le bouton
Ouais, ça c'est un peu... Oui, c'est pas complètement con, mais... Tout le monde le sait, mais il y a toujours des fautes qui passent quand t'as...
Non, mais... Là aussi, je vais faire mon vieux con, mais moi, je travaillais dans la pub. Je peux te dire que si une faute d'orthographe, elle se retrouvait sur les affiches chez l'imprimeur et que tu avais imprimé 1 million d'exemplaires, bon, bah, tu n'avais pas une fonction corrigée.
Donc, ah, quand tu es une entreprise,
voilà, quand tu es une entreprise qui fait de la pub sur Twitter, bah, peut-être apprends à relire avec plusieurs personnes avant de balancer ton tweet avec l'URL complètement pété du cul, quoi. Mais bon, c'est le monde dans lequel on vit, on va dire. Putain, je fais vraiment vieux con en disant ça. Mais non, ouais, je vois la nécessité, comme Corben, tu tweets un truc, moi j'ai pas des problèmes d'orthographe, mais j'ai des problèmes de grammaire, j'ai toujours des fautes de liaison, et que tu te prends une flopée de correcteurs orthographiques là, qui attendent que ça, qui sont à l'orée du bois de Twitter pour te sauter dessus, c'est pénible, ça détériore ton message, et comme Corben, je préfère effacer, et puis zou, on passe à autre chose, ouais. Ce qui est pas toujours possible en plus.
Ce que je dirais, pour aller un peu dans le sens de Cédric quand même, du coup, encore une fois... J'attends les applaudissements, les...
Bravo.
Qui applaudissent, qui crient de joie, tout ça. pour retourner dans le sens de Cédric, peut-être que je me trompe, mais l'utilité de la correction... En fait, il y a deux raisons pour lesquelles on peut vouloir le changement de tweet, l'édition de tweet. Le premier, comme vous en avez beaucoup parlé, c'est les fautes d'orthographe ou de grammaire. Généralement, ça, on va dire, allez, 5-10 minutes, ça devrait plus ou moins suffire à cette fonction, je crois. Ah, peut-être 30 minutes, peut-être qu'ils le réduiront, mais bon, là, la fonction est plus ou moins remplie. L'autre utilité du truc, c'est quand on s'est trompé ou quand on veut nuancer ce qu'on a dit ou quand on veut changer un petit peu le message, mais avec, on va dire, de bonnes intentions. Parce que combien de fois on a tweeté un truc et puis on s'est rendu compte qu'on s'était trompé ou quelqu'un nous a expliqué que c'était pas exactement ce qu'on avait vu ou simplement on était énervé et puis, bon, dans ce cas-là, peut-être qu'on peut le supprimer, ça m'est arrivé une ou deux fois. Mais dans ces cas-là, les 30 minutes, ça suffit pas. Parce que généralement, on redevient un humain normal après s'être énervé. Ça prend quelques temps pour se calmer. Ou alors, pour comprendre ce qu'on a mal compris avant de tweeter, bah, ça prend un petit peu plus de temps. Et là, ça n'aide pas. Ce qu'il faudrait, ça serait peut-être un truc comme ajouter une note à un tweet. Il y a beaucoup de gens qui avaient suggéré cette idée, que je trouve pas bête. C'est-à-dire qu'il y a le tweet et puis il y a un petit bouton ou une petite addendum ou un petit ajout. Qui explique un petit peu le contexte ou qui rajoute une explication à ce qu'on a fait, ce qu'on voulait dire dans le tweet. Ce qui d'ailleurs, l'addendum devrait pouvoir être édité lui aussi, donc ça complique un petit peu les choses.
On peut faire des threads.
Mais quoi, pardon ?
On peut faire des threads.
Des threads, oui, mais les threads, tu sais jamais exactement comment il est organisé. Et puis peut-être que tu as fait un thread et que c'était au début du thread que tu veux expliquer que tu t'es planté, parce que ton thread de 15 tweets, bah, personne va aller au bout pour voir le 16e où tu expliques que le premier n'était pas bon. Mais dans ce cas-là, En gros, ce que j'essaye de dire, c'est qu'effectivement, l'utilité que je vois là, c'est pour corriger les fautes. Et si on va corriger les fautes, bah, pouvoir complètement changer le tweet, ce n'est pas forcément nécessaire. Et 30 minutes, c'est un peu long. Donc, je comprends un petit peu ce que dit Cédric. Maintenant, ils sont en train de tweeter. Ils sont en train de tester la fonctionnalité. Et ça se trouve, ils vont avoir tous ces retours-là. Ils veulent essayer quand même de voir ce que ça donne. Et peut-être que quand elle arrivera en production, elle sera un petit peu différente. Mais...
Imaginez Donald Trump avec cette fonction Edit, on aurait eu le couvre-feu. Et même.
Je ne sais pas, parce qu'encore une fois, on a la mention éditée, on a l'archive de tous les tweets disponibles facilement de toutes les versions. Moi, je pense que c'est.
Oui, mais Patrick, peu de gens vont vraiment aller voir l'histoire. Les gens prennent des fractions de secondes pour décider ce qu'ils croient, ce qu'ils suivent, etc. Et Cédric a complètement raison. Il y aura des gens type Donald Trump et des gens qui ont très bien compris comment fonctionnait, qui vont booster leur tweet avec une bonne phrase bien polémique au début, et puis après adoucir leurs propos pour être politiquement correct. Personne va aller voir l'archive.
Non, je suis pas d'accord. C'est pas personne. Il y a des gens qui vont pas aller les voir, mais ces gens-là n'auraient pas besoin de la circonvolution de l'édition de tweet pour se laisser convaincre par ce genre de message. Ils sont déjà à galoper quand les messages, inflammatory.
Quand Thomas Pesquet dit qu'on n'a jamais été sur la Lune, quoi, tu vois.
Voilà. Exemple.
Le titre, on parle de vous, là.
Mais bon.
Bah, vu que la Terre est plate, de toute façon,
quand tu navigues dans ce genre de sphère, t'as pas besoin d'un bouton édité pour faire courir les gens avec la désinformation. Et Dieu sait que la désinformation est un danger que je crains et dont j'essaye de parler régulièrement. Et c'est pas le bouton édité en 30 minutes qui va vraiment avoir un impact là-dessus. Moi, j'y crois pas. Maintenant, peut-être que je me tromperais, hein, mais ça, je pense pas que ça soit un danger à ce niveau-là. C'est comme les chercheurs en sécurité. Il n'y a pas l'intégralité de la population qui va chercher les problèmes dans les logiciels, dans l'écriture des logiciels et la manière de les hacker. Mais quand une personne trouve le truc, bah, ça se répand et on comprend le problème. Là, tout le monde va peut-être pas aller voir toutes les versions du message. Mais c'est quand même un petit peu plus facile que d'aller chercher des failles dans des logiciels. Mais il y aura suffisamment de gens qui le feront pour pointer du doigt les problèmes.
Moi, je trouve que Cédric a complètement raison. Et s'il y a quelque chose à retenir de ces 20 dernières années, c'est que une minorité de gens trouve toujours des manières de détourner les outils les plus positifs qui existent au monde. Mmh. Et c'est eux qui triomphent à la fin. Et Twitter, pour moi, 99% des gens sur Twitter sont des gens bienveillants et qui pourraient faire de Twitter le plus beau et le plus pur des réseaux sociaux au monde. Mais le 1% qui a trouvé comment faire et répandre le mal avec triomphe aujourd'hui. Et c'est ça le problème pour un designer aujourd'hui de n'importe quel produit Internet. C'est le 1%, c'est le tech for good, quoi. Ça rend tout très compliqué. Parce que ce 1% triomphe toujours à la fin et démolit tout, en fait.
Ouais, je trouve que c'est un peu exagéré comme interprétation. Je suis d'accord que ça va dans la bonne
direction. Tu verras quand il y aura des missiles atomiques qui seront balancés à cause d'un tweet édité. Hein, on en reparlera.
Moi, j'ai du mal. Je suis d'accord qu'on trouve toujours un moyen d'utiliser à mauvais escient une fonctionnalité tech. Je suis d'accord. Bon, je reste convaincu que dans l'impact, les problèmes de cette catégorie dans la tech, c'est pas sur celui-là que ça va forcément le plus. C'est pas sur l'édition de tweet que ça va forcément se manifester, mais on verra.
On verra quand le premier tweet qui aura été édité aura buzzé plus que le tweet original. Le tweet édité aura dépassé le tweet original, voilà.
Bah oui, mais que tu vois, tweet édité.
Non, mais c'était pour faire le rapport avec ton IA qui avait dépassé l'autre.
Ah,
tu vas voir quand il y a des artistes qui vont se faire des auto-ratios en édite sur leur tweet.
Ah, exactement.
Très bien, bah écoutez, on verra ça. Entre parenthèses, Twitter a aussi lancé sa fonctionnalité Circles. Les circles, c'est la possibilité de se faire des petits cercles d'amis plus restreints de 150 personnes que je crois personne dans mon entourage n'a utilisé, et même pas moi. Alors que je me disais,
Google,
ça pourrait être sympa.
Plus les cercles, les
ça me rappelle ça.
Le comeback.
Et bien écoutez, c'est tout pour
Twitter Plus peut-être.
Twitter Plus, oui, bah, c'est ça.
Non, non, mais oui, voilà.
Twitter,
si, moi,
Twitter,
j'y vois quand même. Oui, j'y vois un intérêt pour nous. Si tu arrives facilement, je sais pas, à faire le cercle de tes contributeurs, tu peux te faire des tweets à deux vitesses. Mais le problème, ça va être l'interconnexion des plateformes de crowdfunding et ton Twitter Blue qui va être impossible. Ouais. Donc, si tu fais ça à la main, au secours.
Ça, c'est dispo même pour les gens qui sont
pas
abonnés.
Si on fait une conversation WhatsApp. Hein.
Ouais. Exactement. Mais vous saviez qu'il y a des communautés sur Twitter ? Il y a aussi des communautés qui sont des sortes de sous-Twitter. Ouais. N'importe qui peut créer une communauté. Ça fait des mois et personne... Enfin, moi, je m'en suis servi pour tester. J'ai un ami, enfin, un ami podcasteur qui s'en est servi aussi. Et personne s'en sert. Alors que, en théorie, l'idée est sympa. La communauté, pour ceux qui ne savent pas, c'est on crée une sorte de flux qui est réservé à cette communauté. Donc, il faut suivre la communauté pour voir les tweets qui sont dessus. Et on peut poster vers cette communauté. C'est un tab différent, un onglet différent dans Twitter qui est au milieu. Et bon, bah, même les gens les plus gros utilisateurs de Twitter que je connais s'en servent pas. Donc, bon.
C'est le problème aujourd'hui des réseaux sociaux. Ils prennent tous les fonctions des autres. Le problème, c'est que aucun être humain sur Terre n'a le temps d'utiliser toutes les fonctions. Enfin,
non, mais ça pourrait être un outil de... Tu sais, l'un des problèmes qu'on a avec Twitter, c'est qu'il y a tellement de bruit, le rapport signal-bruit est tellement mauvais qu'on pourrait se dire, OK, bon, si je choisis mieux les gens que je suis, si je vais dans des endroits où c'est un petit peu moins pollué. Et donc, quand on nous donne des outils pour ça, ça devrait être une bonne idée. Mais au final, personne s'en... Au final, tout le monde va sur Discord. Et le Discord...
Bah, t'as Discord, c'est ça.
Noter notre Patrick. Et
après, il y a la confiance aussi vis-à-vis de Twitter qui, pour moi...
C'est un autre problème.
Voilà. Mais avec, tu sais, toutes les révélations qui ont été faites récemment, sur la façon dont la sécurité est gérée, etc. Enfin bon, ça te fait te poser des questions sur est-ce que les cercles, c'est vraiment pertinent de les utiliser en fait pour des choses un peu plus perso, par exemple. Voilà.
Ouais, effectivement. Ouais. Bon, bah écoutez, on verra ce que donne cette histoire de cercle, non pas de cercle, d'édition de boutons, s'il l'envoie dans production à un moment. On va avoir quelques autres sujets traités un petit peu plus rapidement. Et avant de traiter ces sujets, je voudrais vous parler d'un autre sujet extrêmement important et traité relativement rapidement, c'est celui de Patreon. Est-ce que vous connaissez Patreon ? Patreon, c'est un outil merveilleux pour soutenir des créateurs de chair et d'os, pas de vulgaires IA qui simulent l'intelligence, mais des vraies personnes qui en sont dépourvues. Peut-être, mais qui essayent, qui font de leur mieux, comme par exemple Patrick qui fait le Rendez-vous Tech. Sur le Rendez-vous Tech, eh bien, vous avez des informations sympathiques, des gens sympathiques qui participent à l'émission et qui vous résument l'actu de la tech et qui, j'espère, vous rendent service ce faisant. Et vous pouvez soutenir ces personnes. Vous pouvez soutenir avec des sous-sous, des vrais sous. Vous allez sur patreon.com/rdvtech, vous choisissez la somme que vous voulez donner. Et par épisode, vous pouvez choisir 1 euro, 2 euros, 3 euros, le prix d'une petite bière, le prix d'un café, le prix d'un sandwich. Et vous êtes débité à la fin de chaque mois automatiquement. Et vous avez accès à plein de bonus super cool, comme les émissions sans pub, sans cette petite promo au milieu, avec des time codes pour aller directement au sujet qui vous intéresse. Vous avez des bonus, du contenu bonus. Vous avez l'accès à des sections, des bonus sur le Discord, qui est super cool. Si vous allez au niveau 2, vous avez accès à des section super secrète du Discord où on discute de plein de choses. Bref, le plus important à retenir de cette discussion, c'est que si vous voulez soutenir l'émission, eh ben c'est le moyen de le faire, patreon.com/rdvtech. Merci à tous ceux et toutes celles qui y penseront aujourd'hui en écoutant cette émission qu'ils apprécient depuis, j'espère, quelques mois, quelques années peut-être. C'est peut-être le moment. Et quand vous rentrez chez vous, que vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et là vous dites « Oh, Patrick, cling Patrick !» On va soutenir sur patreon.com/rdvtech, où on va au moins y jeter un coup d'œil. patreon.com/rdvtech. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit after show sur une société de fourniture d'électricité qui a limité la température du thermostat de ses clients pour des raisons plus ou moins justifiées. On va voir ça. On n'a pas eu le temps d'en parler là, mais je pense que c'est une question intéressante, presque philosophique là encore. Donc bon, on fait ça après l'émission pour les Patreons.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on arrive à la partie, le reste de l'actu, où on va parler un petit peu plus rapidement. On n'a pas parlé d'Apple encore, mais on va parler d'Apple avec une information. Là aussi, une étape franchie, c'est l'épisode des étapes franchies, avec aux États-Unis spécifiquement, aux États-Unis, on a Apple, dans le marché des smartphones utilisés, eh bien, les iPhones ont dépassé Android pour atteindre plus de la moitié des appareils utilisés dans le pays. Il y a plus de 50% d'iPhones dans le marché des smartphones utilisés aux États-Unis en ce moment. C'est le niveau le plus haut qu'a atteint l'iPhone depuis son lancement. Il était à 35% en 2019. Donc en 3 ans, ça pas doublé, mais enfin on est passé de 35 à 50. C'est vraiment une étape hyper importante, je trouve. C'est assez incroyable qu'on arrive à ce niveau. On ne parle pas des appareils haut de gamme. Hein. On ne parle pas, ce qui est d'ailleurs depuis longtemps, hein. Apple a complètement capturé le marché des téléphones haut de gamme qui sont les plus lucratifs. Mais là, on parle de tous les appareils. C'est intéressant parce que Google a... Il y a plusieurs choses qui sont arrivées depuis 2019 et qui commençaient depuis quelque temps d'ailleurs. Google a, semble-t-il, un petit peu abandonné l'excitation autour d'Android. L'OS n'est plus si excitant. Ils ne présentent plus leurs nouveautés avec une grande fanfare de nouvelles fonctionnalités et de joie autour de laquelle les fans de tech peuvent se retrouver et s'exciter. Et on me pose la question dans la chatroom, donc je vais répondre. On parle bien d'Apple contre Android, pas Apple contre Samsung ou contre Lenovo ou contre Xiaomi, etc. Il y a plus de téléphones Apple de plus de téléphones iOS que de téléphones Android. C'est de ça que je parle aux États-Unis utilisés activement. Et d'un autre côté, donc Google n'est plus hyper excitant au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles versions de l'OS. D'ailleurs, on en parle moins dans l'émission hein, parce que Google ne fait pas de grandes fêtes autour de ça. Et d'autre part, Tim Cook et Apple ont quand même carburé à fond sur les iPhones. Bon, ils ne sont pas incroyables, c'est des évolutions itératives comme du côté d'Android d'ailleurs, mais tout ce qu'il y a autour, que ce soit les smartwatches avec l'Apple Watch qui est quand même un énorme succès, les AirPods qui sont pour moi le produit le plus important, j'exagère à peine, de ces 10 dernières années. C'est vraiment un produit qui a changé la manière dont on appréhende une partie de l'industrie. Les services Apple, et puis l'idée d'avoir une expérience utilisateur qui a toujours été le credo d'Apple, une expérience utilisateur qui a des plus, qui a des ajouts, iMessage étant un exemple, mais les trucs comme le wallet, l'Apple Pay, des fonctionnalités de domotique qui sont peut-être un petit peu plus unifiées et faciles à prendre en main qu'ailleurs, etc., etc. Et du coup, bah, ça a l'air de porter ses fruits. Je crois que Corben, je ne me souviens plus quand tu es passé à iOS. sais plus si tu...
Oh, ça devait être en 2014-2015, dans ces eaux-là.
D'accord.
Parce que j'en avais marre d'appeler avec mon Android et que l'application téléphone crache ou que l'application SMS crache. Quand tu dois bosser, c'est vite emmerdant. Donc,
c'est marrant parce que toi, je t'associe plutôt à l'univers de l'open source, des gentils barbus, tu vois. Et je me suis dit, t'es un client Android à vie. Et en fait, toi, tu as fait cette démarche quelques années avant le mouvement dont on parle là, mais tu as fait cette démarche pour ces raisons, quoi, pour des raisons de facilité d'utilisation.
Pour des raisons, même pas forcément de facilité d'utilisation, mais c'est juste bidouiller, c'est bien, tu vois, bidouiller, tu mets Linux, tu mets Android, tu es content, tu bidouilles, tu installes, tu patches, tu fais plein de trucs de barbu. Mais à un moment, quand tu as besoin d'un truc fiable, quand tu as besoin de passer un coup de fil ou de bosser, t'es emmerdé avec ton téléphone qui démarre pas, tu vois. Donc, si tu veux, j'aime beaucoup Android. Mais c'est pareil avec Linux, si tu veux. Moi, Linux en version desktop, hein, je parle en version desktop pour le grand public, ça marche très bien. Mais un jour, tu sais pas pourquoi, tu vas faire une mise à jour et ton serveur X va pas redémarrer. Il va falloir que tu ailles bidouiller dans les fichiers de config et tout. Fais chier, quoi, tu vois.
Donc tu passes de l'informatique en tant que hobby presque à l'informatique, tu t'en fous que ça soit un outil informatique, voilà, c'est juste un device que tu veux utiliser et voilà, tu t'en fous de ce que c'est, quoi.
C'est dont tu as besoin, surtout, il faut que ça soit fiable. Tu vois, il y a la question fiabilité, quoi. C'est ça qui est important.
C'est un mouvement qu'on n'avait peut-être pas vu venir quand même, là je me tourne vers Cédric et Jérôme. Je ne sais pas si on l'avait vu venir quand même. Moi, j'avais toujours l'image d'iOS et d'Apple qui était le produit qui trustait le haut de gamme et les marges. Mais je n'aurais pas imaginé qu'ils prennent 50% de part de marché. Alors, encore une fois, c'est qu'aux États-Unis, hein, ce n'est pas au global ou même dans les pays occidentaux qui sont plus riches. Mais quand même, c'est surprenant qu'ils arrivent à 50% de part de marché. C'est un travail impressionnant de Tim Cook.
C'est pas si surprenant, en fait.
Ouais.
C'est, comme tu dis, il y a un vrai travail de la part de Tim Cook, etc. Il faut se dire aussi qu'aux États-Unis, il y a la fameuse possibilité de renouveler son téléphone tous les 18 mois ou tous les ans, etc., avec leur système de financement et compagnie. Il y a pas mal de facilités. Le refurb est assez actif là-bas aussi. C'est bête, hein, mais ils ont beaucoup de terminaux vendus. Donc fatalement, il y a aussi beaucoup de terminaux qui restent en activité parce que ils ont une longévité. C'est mathématique aussi. Ils ont une longévité qu'un téléphone Android n'aura pas. Ouais. Quand tu vois que iOS 16 va sortir sur 5 ou 6 générations de téléphones précédents, ils sont pas obsolètes tout de suite.
C'est marrant ce que tu dis parce que
c'est
marrant ce que tu dis parce que sur cet aspect aussi, Apple gagne de l'argent avec les services, les accessoires, etc.
Oui, mais
ils font de l'argent même sur un téléphone deuxième, troisième main, grâce à
sur les accessoires, sur les remplacements de batterie, sur éventuellement les remplacements d'écran, mais il y a une économie. Enfin, rappelez-vous, pour la sortie de l'iPhone 12, on disait ça y est, l'iPhone dans son form factor ultime est arrivé. Et depuis, c'est que itération. Le 13, on a vu que c'était une itération. Le 14 sera sans doute une itération avec un petit changement d'encoche qui sera peut-être plus une encoche. Enfin, voilà, des capteurs plus grands. Mais dans les faits, des changements de form factor dans l'iPhone, on n'en a pas connu tant que ça. C'est un mobile qui... C'est leur marché domestique, hein, Apple. Hein. Donc, il faut se dire aussi que la communication là-bas, c'est pas du tout la même. La force de frappe n'est pas la même. Il y a aussi le fait que les téléphones concurrents du côté de chez Google, par exemple, pour citer que Google, ont aussi augmenté en prix, en fait. Même les téléphones chinois, les Xiaomi, etc., ont aussi augmenté en prix. Alors, en plus, avec les taxes sur l'import de produits chinois, fatalement, on se retrouve avec des différences de prix qui justifient plus trop de faire un choix entre l'iPhone et un produit Android. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es à $200 d'écart, voire des fois moins, finalement, prendre
le
un
prix
iPhone...
Le prix n'est plus un argument aussi fort, tu as raison.
Exactement, c'est plus vraiment le cas. Et encore une fois, la longévité des appareils. On traverse aussi une crise écologique. Alors, je ne dis pas que tous les Américains sont devenus tout d'un coup écolos et veulent tirer la durée de vie de leurs produits le plus longtemps possible. Mais n'empêche que peut-être qu'il y a aussi ça. Il y a aussi une conjoncture économique qui fait que on va pas renouveler ces appareils, donc le parc installé reste là. Et quand tu as en face quelqu'un qui te dit « Ah, mais moi, mon téléphone Android, bah, j'ai plus les mises à jour au bout de 3 ans ou de 2 ans, il faut que je change de produit. » Et que toi, tu dis bah, « Moi, j'ai le mien depuis maintenant 3 ans et je sais que je peux encore le garder 4 ou 5 ans. » Bah, peut-être que la logique de se dire « L'investissement que je fais maintenant, il est peut-être un peu plus élevé, mais je le garde plus longtemps dans la durée », fait aussi sens, en fait. Donc, je pense que le marché américain est vraiment, et ça se voit d'ailleurs hein, par les chiffres, mais est vraiment extrêmement différent du nôtre. On n'est pas du tout dans la même logique non plus de consommation et de conservation des appareils. Donc, voilà, je pense
que... Tu penses qu'on change d'appareil plus souvent ici, c'est ça que tu veux dire?
Non. Ce que je veux dire, c'est que la seconde, la troisième vie qu'on peut donner à un appareil sur l'iPhone est beaucoup plus élevée que sur un téléphone Android, tu vois. Donc, et le marché, enfin, c'est un très gros marché, le marché américain pour Apple, c'est leur premier marché. Donc, fatalement, on se retrouve avec des produits qui sont toujours en activité et toujours utilisés, alors que potentiellement, il s'est vendu plus de téléphones Android sur la même période, mais ils ne servent plus, en fait. Tu vois, c'est ça, en fait. Ouais. Et on parle de téléphone actif, pas de vente de produits.
Ce que je retire de vos réflexions, c'est que il y a une stratégie, enfin de nos réflexions, c'est qu'il y a une stratégie globale et coordonnée de la part d'Apple qui mène à ces situations et qui lui permet d'être arrivé à cette position. Il y a vraiment un ensemble de réflexions que ne peut faire qu'une société qui maîtrise. C'était le grand credo de Steve Jobs, qui maîtrise tous les éléments de la chaîne. On parle souvent du matériel et du logiciel. Là, on va peut-être encore plus loin avec les accessoires et les services, etc. Mais il y a une stratégie globale qui fonctionne quoi, depuis quelques années.
Là, on voit effectivement le triomphe de Tim Cook qui a appliqué finalement des principes qui sont un peu moins glorieux dans la presse qu'un Steve Jobs, qui se remarque moins. Mais je ne pense pas que Steve Jobs serait arrivé à un résultat comme ça.
Je
pense que le premier triomphe de Tim Cook, c'est la chaîne d'approvisionnement hyper bien maîtrisée d'Apple. Ce qui leur permet
c'était
même
le cas déjà
à
l'époque de Jobs. Hein.
Ouais, mais il l'a poussé à un niveau plus haut, qui a permis quand même à Apple d'atteindre des marchés et de sortir simultanément des nombres de modèles. À l'époque de Steve Jobs, on était encore à un smartphone par an. Hein.
Oui, c'est
là,
ça.
C'est quatre modèles avec des couleurs différentes.
On a quatre modèles, on a les nouveaux AirPods, les nouvelles Watch,
oui,
les
nouveaux
iPads,
produits, des services,
quatre types d'iPads différents, des ordinateurs.
Tim Cook, c'est un écosystème qu'il est arrivé à construire. Une pratique de prix bas, je sais que certains vont tomber de leur chaise, quoi. Prix bas chez Apple, ça n'existe pas, c'est complètement faux.
Non, il y a
Apple
une
a une vraie politique aujourd'hui de prix accessible, notamment des prix très agressifs au niveau de l'iPad, qui est une excellente porte d'entrée à des récalcitrants de l'iPhone, qui commencent par un iPad et qui viennent à l'iPhone. Donc, ils ont attaqué des segments de marché qui avaient des anticorps Apple, et on a vu beaucoup de shift Android. Il y a aussi, mine de rien, deux choses qui sont à mettre au crédit d'Apple, à mon avis. Ils ont très bien su surfer sur la descente aux enfers de la sécurité d'Apple, de Google, en mettant leur marketing, un braquet marketing à fond sur « nous, on protège vos données », que ça soit vrai ou faux, c'est un autre débat. Mais en tout cas, marketingment parlant, ils ont pris le bon cheval en disant « nous, on protège, Google vous pille ». Ça a jeté un discrédit même dans le mass market, les gens qui s'en foutaient de leur vie privée. Quand je vois des gens, moi, au café, qui se disent « Oh non, moi, je ne veux pas acheter un Android, je n'ai pas envie qu'on me pique toutes mes données », tu te dis « Ok, le message d'Apple, il a quand même touché tout le monde ». Donc ça, c'est une réussite marketing. Et puis, leur écosystème qui marche quand même hyper bien, la fiabilité. Moi, j'entends de plus en plus dans les commentaires, peut-être pas les rageux qui vont mettre les premiers commentaires en disant « Ouais, Apple, c'est de la merde et tout », mais des gens en majorité silencieuse qui disent « Moi, j'ai soutenu Android pendant pas mal d'années, puis j'en ai marre, leur mise à jour, elle n'est jamais faite, ça ne marche pas bien, il y a des bugs, je veux prendre une photo, ça plante une fois sur 10, je suis passé chez Apple, c'est génial en fait, Apple ». Alors, il y a le contraire aussi. Hein.
Bien sûr, mais je crois que
des ennemis, mais...
les chiffres montrent qu'effectivement, il y a un mouvement qui est indéniable. Je crois qu'anecdotiquement, dans le monde de la tech, de la création de contenu podcast YouTube, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a plus vraiment de guerre de clochers, c'est à part quelques enragés, mais il n'y a plus les deux camps qui s'envoient des pics gentiment. C'est vraiment, bon, bah, pff, ok, il y a ça et ça, et beaucoup de gens qui sont intéressés par Apple. Mais l'effort de l'écosystème est intéressant parce qu'il va tellement loin que même dans les services de streaming, après un lancement de Apple TV Plus qui était un petit peu décrié et même un petit peu raillé, un petit peu ridiculisé, depuis, on en parlait dans l'émission, depuis quelques mois, on voit des commentaires assez élogieux sur ce service, qui n'a pas beaucoup de séries, mais dont la plupart sont des réussites totales. Et j'aurais jamais cru que même pour la télé... Donc, il y a un truc qui s'est fait. Alors, évidemment qu'il y a des trucs qui merdent, hein, mais bon, bref, pour le moment, c'est pas du tout dans cette direction. Tim Cook a vraiment pris Apple dans la direction de Tim Cook après la mort de Steve Jobs. C'est pas l'Apple de Steve Jobs, mais il y a quand même des forces qui sont indéniables avec une identité qui reste quand même assez proche de celle qu'on connaissait avant. Bon, on n'a pas parlé de ce qu'on attend pour demain. C'est demain la conférence Apple avec la présentation de l'iPhone 14, de l'Apple Watch Pro, 8 Pro, des AirPods Pro 2, etc. etc. On en parlera la semaine prochaine. Et si tout va bien, je ferai avec... j'ai poussé avec le coude Jérôme pour le débrief de Nowtech qu'il devait faire avec Guillaume mercredi soir, après la conférence, juste après, sur la chaîne Nowtech. Et je vais le faire avec Guillaume, si tout va bien, j'espère. Je ne sais pas s'il y aura des problèmes, mais écoute, Jérôme, que tu vas
participer. Non, pas du tout, j'ai suivi... J'avais beau être en vacances et d'avoir promis de ne pas aller sur le Discord, ben même en vacances, on va aux toilettes. Donc, je surveillais tout ça, surtout quand tu vas en Bretagne, parce qu'ils mangent beaucoup en Bretagne. bref, je surveillais et je confirme effectivement, Tim Cook n'a pas eu ma missive, selon quoi moi j'avais un concert ce soir-là. Mm-hmm. Donc, c'est toi qui vas prendre ma place pour le live sur Nowtech, sur la chaîne Twitch de Nowtech demain soir.
Donc, on en parlera à ce moment-là. Quoi d'autre ? Un sujet intéressant sur les enfants, les parents qui achètent des montres à leurs enfants, des Apple Watch spécifiquement. Il y a d'autres produits sur cette catégorie, mais bah, encore une fois, l'écosystème, beaucoup de gens, en particulier avec la fonctionnalité de l'année dernière qui permet de configurer une Apple Watch pour une personne de sa famille sur son propre téléphone, les achètent aux enfants.
Et les Apple Watch SE, hein.
Et pareil, oui, les Apple Watch bon marché, entre guillemets, pour les enfants jusqu'à 5 ans, entre 5 et 10 ans, on va dire, pour décaler l'achat du mobile et l'ouverture de la boîte de Pandore des mobiles. Et c'est marrant, moi, j'y pense aussi. Mon fils a 4 ans et demi, bientôt 5, alors peut-être pas à 5 ans, mais 6-7 ans, je me demande si le fait d'avoir une montre, bah, ça nous permet de pouvoir le contacter et ça ne lui donne pas accès à toute la... à toute la richesse et les problèmes du net. Et donc, c'est une tendance qui gagne en...
Donc, tu fais comme moi. Moi, je lui ai pris un Nokia qui ne va pas sur Internet. Mais quand même, à la maison, s'il veut, tu vois, contacter ses potes sur FaceTime, machin, il a un iPod Touch, tu vois. Ouais. Et avec le contrôle parental, tu peux bloquer pas mal de choses. Donc, il n'a pas accès au navigateur web, tu vois, enfin...
Je comprends, ouais.
Voilà.
Ouais, ouais. Mais tu vois, l'Apple Watch, bah, c'est pratique. Au moins, tu peux le... C'est plus simple, quoi.
Ouais, mais... joue à Clash Royale sur l'Apple Watch.
Ah bah oui. Non. Et mon fils, hier, il est revenu. Il a même pas 5 ans, hein, 4 ans et demi. Il me dit, papa, est-ce que tu as le Minecraft ? Je dis, mais... Le Minecraft ? Oui, il y a Hugo qui m'a dit qu'il a Minecraft, c'est sympa. Je lui dis, bah, on va voir, je vais voir si je vais essayer de le trouver. Moi, j'exultais à l'intérieur et en même temps, j'étais terrifié parce que Minecraft, c'est un peu compliqué pour lui. Mais, ouais. Et puis, il me disait, mais je lui dis, je vais essayer de le trouver. Et il me dit, ah, est-ce qu'il y a les noms des jeux sur les jeux ? Tu crois... Il s'appelle Minecraft, hein, tu crois que tu peux le trouver ?
Patrick, en vrai, tu lui achètes une pioche, tu lui dis tiens, c'est encore mieux là. Tu vas aller jouer dans le métavers du fond du jardin là et tu vas aller casser des pierres.
Et après, on peut dans du bois. Là, si tu veux du bois.
C'est voilà. Ça. Après, tu vas crafter. Voilà, ça c'est pour miner et puis tu vas crafter. Bref. Et puis, il y a une initiative en France qui va donner dans 109 collèges de Seine-Maritime, c'est ça, des iPads à tous les étudiants comme outil pédagogique. Alors, c'est important de le noter, c'est pas qu'ils filent un iPad et qu'ils vont dire bah, vous faites ce que vous voulez. C'est des iPads qui sont extrêmement customisés et qui sont utilisés pour. Comme outil pédagogique pour regarder des vidéos, avoir des accompagnements d'enseignement, ce genre de choses. Il y en a 60 000 qui vont être distribués sur 4 ans. Il y a eu un premier test pendant quelques mois. Mais c'est vraiment... Et je crois que la première réaction, j'en parle parce que je pense que la première réaction, c'est de se dire oh, « Pourquoi les machines, l'informatique, machin, c'est pas nécessaire, ça marche très bien avec un cahier, un stylo. » Mais là, c'est vraiment l'idée de se servir d'un outil informatique pour augmenter le cours. Ils ne vont pas s'en servir toute la journée. C'est un outil qu'ils vont pouvoir utiliser, qui en plus permet d'avoir un accès à l'informatique aux personnes qui sont plus défavorisées, qui n'ont pas forcément un ordinateur. On s'est rendu compte pendant la pandémie, par exemple, qu'il y avait des gens qui devaient envoyer leurs devoirs depuis un téléphone ou qui n'avaient pas accès à Internet ou ce genre de choses. Donc, il y a une vraie déficience au niveau
de... Moi, j'ai un retour d'expérience sur ça.
Ouais.
J'ai utilisé avec mes deux enfants, parce que je leur ai fait pendant les vacances, je leur fais faire du Swift pour leur apprendre à coder, etc. Et ils utilisent des iPads pour ça. Donc, j'ai deux iPads et ils utilisent ça. Et en fait, moi, depuis mon MacBook, il y a une fonctionnalité qui s'appelle En classe et qui permet justement de contrôler en fait ce qui se passe sur les iPads, d'autoriser que certaines apps pendant qu'ils font le cours. Et c'est hyper intéressant parce que vous pouvez aussi voir ce qu'il y a sur leurs écrans en temps réel. Donc, vous pouvez corriger, vous pouvez... C'est vraiment hyper bien fait. Et vous créez en fait une classe comme ça et tous les gens ou les étudiants en fait sont connectés au même réseau que vous. Et en fait, vous pouvez les ajouter dans la classe. Et automatiquement, en gros, vous prenez la main sur le truc et en appuyant sur un bouton, par exemple, vous pouvez ouvrir Swift Playground sur tous les appareils en même temps ou partager une ressource et automatiquement, ça ouvre le navigateur web sur la vidéo, par exemple, que vous voulez leur montrer, etc.
Et il y a ce genre de fonctionnalité dont on parle, ouais.
Et c'est hyper bien fait et j'ai découvert ça, en fait, sur l'iPad en jouant comme ça avec les enfants. Et je vois totalement l'intérêt et comment ça peut fonctionner dans une classe, au collège, etc. Ouais.
Donc vraiment, moi, ce qu'il faut... Ouais. Pardon, vas-y.
Pardon. Ouais, je trouve justement que l'iPad, on va dire les tablettes, pour pas... C'est un super outil pour la pédagogie, pour la démocratisation de l'informatique. J'ai rien contre les ordinateurs, mais les ordinateurs... Même un Chromebook ou quoi que ce soit exige quand même une certaine configuration mentale pour l'utiliser et exclut les esprits créatifs et des gens qui sont plus manuels. Je trouve que dans la tablette, surtout quand elle a un stylet, le fait aussi que ça permet de se concentrer sur une tâche alors que l'ordinateur va souvent encourager quand même à faire plusieurs choses en même temps. Personnellement, pour travailler depuis plus d'une dizaine d'années avec un iPad, c'est pas antinomique avec un ordinateur. Et je pense que dans les écoles, on a trouvé un super produit. Enfin, pour moi, c'est un super produit. Certes, un peu cher, mais c'est un super produit pédagogique. C'est presque une évidence, quoi.
Ouais. Et en l'occurrence, c'est exactement ça. C'est un outil pédagogique. On ne peut pas l'utiliser après 8 heures du soir. On ne peut pas télécharger des apps, etc., etc. Et on ne peut pas aller sur la plupart des sites. Enfin, c'est vraiment comme on va avoir un stylo, un cahier, un iPad et on ne va pas l'utiliser tout le temps sur l'iPad, mais c'est un outil. Moi, je pense que effectivement, comme vous le disiez un petit peu tous, c'est bien d'avoir la possibilité d'utiliser cet outil en salle de classe, quoi. Et les ordinateurs, ça ne fonctionnait pas vraiment, c'est pas pratique, c'est lourd, c'est machin. Un iPad, oui, il faut qu'on puisse utiliser dans son parcours pédagogique et pour l'équipe enseignante, qu'on ait la possibilité d'utiliser un outil informatique. C'est une richesse. Donc, à voir si ça fonctionnera avec ça. C'est un test qui est étendu, là.
Et c'est incroyablement facile à utiliser sur, sur l'iPad. Ouais. Et, enfin, moi, du coup, j'utilise mon MacBook Air, mais si j'avais un iPad maître, je pourrais le faire avec un troisième iPad, mais deux déjà, c'est pas mal. Hein. Et c'est vraiment, vraiment bien fait, quoi. Enfin, on peut faire l'appel et tout dedans. Enfin, vraiment, le truc est génial.
Eh bien, écoutez, donc, c'est ajouté à l'outil pédagogique des enseignants, enfin, en Seine-Maritime. Quoi d'autre ? Un sujet. Allez, on va terminer avec ça. Il y a quand même un sujet un petit peu pénible, mais qu'il faut quand même évoquer. C'est le combat entre Cloudflare et Kiwi Farms. Enfin, le combat. Kiwi Farms est un forum, on va dire ça comme ça, un petit peu comparable à 8chan et 4chan avant lui, mais qui coordonne depuis une dizaine d'années des attaques, en particulier contre les personnes trans, mais des attaques contre toutes sortes de personnalités et de personnes, comme du harcèlement, du swatting. Vous savez, le swatting, c'est le fait d'appeler les autorités et de dire il y a, je sais pas, une personne qui est dans une maison en train d'assassiner la famille, il faut que vous y alliez tout de suite, et on envoie le SWAT, donc les équipes d'intervention, chez quelqu'un qui n'a rien demandé à personne, qui est tranquillement chez elle. Et c'est parti d'une attaque contre une Twitcheuse, une streameuse sur Twitch, qui est trans et qui a été harcelée, qui a été swatée à plusieurs reprises. Elle est même quitté les États-Unis, elle est allée en Irlande. Quelques jours après son départ en Irlande, elle a été retrouvée par le forum et ils avaient toutes ces informations. Ils ont, je crois, même en Irlande, envoyé les forces de l'ordre. Ça, je ne suis pas sûr, mais ils ont retrouvé un endroit où elle allait. Elle a dit « je vais aller manger je ne sais pas quoi » et ils ont retrouvé l'endroit, ils ont envoyé des attaques, enfin des menaces, des alertes à la bombe dans la boutique, ce genre de choses. Enfin, bref, le forum est comme ça depuis l'époque du Gamergate, donc c'est vraiment un truc qui ne date pas d'hier. Les victimes de Gamergate ont essayé de le faire tomber depuis longtemps. Je vous avoue que moi, j'en avais pas entendu parler avant ces derniers événements, donc il opérait, je crois, un petit peu en sous-main. Mais la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que suite à ces dernières attaques, il y a eu beaucoup de pression sur Cloudflare, qui est la société qui fournit de la protection informatique, donc contre les attaques des DOS, ce genre de choses, à de nombreux fournisseurs de services, pas que Kiwi Farm, hein, il y a genre, je sais plus, 20% de l'Internet qui est sur Cloudflare pour se protéger contre les potentielles attaques. Et le service était donc sous pression d'arrêter d'héberger Kiwi Farms. Il y a quelques jours encore, il disait « Non, c'est pas à nous de décider qui va faire ceci ou faire cela. » Et donc, ça relance ce débat éternel dans lequel je ne veux pas forcément me relancer aujourd'hui. Mais ils ont changé de position il y a quelques jours parce que, justement, selon eux, la raison, c'est que les attaques et la question de la sécurité, de la sécurité des personnes commençaient à devenir véritablement problématiques. Il y a plein d'avis sur Cloudflare. À la fois, ils profitent de cet état de fait et en même temps, ils décident d'être complètement en dehors de la décision. Ils voudraient, alors que certains services utilisent Cloudflare pour faire des choses qui sont clairement critiquables. D'ailleurs, Kiwi Farms ne s'est pas limité à l'attaque de personnes trans. Il y a des gens qui ont fait qui ont créé des campagnes contre, par exemple, Marjorie Taylor Greene, qui est une fervente supportrice de Donald Trump, etc. Donc, enfin, c'est vraiment les bas-fonds de l'Internet et Cloudflare. Alors, les protéger, c'est la question de du free speech, vous savez. Est-ce que, même pas du free speech, mais des intermédiaires neutres qui se reposent à chaque fois. Et Cloudflare dit, mais c'est pas à nous de décider. Bon, quand ça va suffisamment loin, c'est pas la première fois qu'ils décident d'interrompre le service. Là, on est dans ce cas-là. Je voulais le mentionner parce que vous entendrez sans doute parler ici et là de Kiwi Farms, et au moins maintenant, vous comprendrez de quoi il s'agit. Bon, je ne sais pas s'il y a grand-chose à ajouter là-dessus. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas. mais c'est des questions qu'on a souvent
souvent traitées, ouais, en fait. Donc,
donc voilà.
Quand Internet existera, on traitera ce genre de questions.
C'est ça. Je vais conclure avec une, un sujet un petit peu plus drôle. Est-ce que vous connaissez le hack par VTC ? Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Non.
Non.
Eh bien, écoutez, quand vous disiez il y a quelques instants qu'on peut toujours trouver un moyen d'utiliser un service pour faire des choses pas très bien, à Moscou, il y a, enfin à Moscou, en Russie, il y a des gens qui ont utilisé l'app de VTC de Yandex, qui est le géant du net local, qui, pour créer un embouteillage monstre à Moscou, en commandant des dizaines et des dizaines, voire des centaines de taxis, et en les, leur disant qu'ils devaient les récupérer à un endroit précis. Et donc, il y avait des dizaines, des centaines de taxis qui convergeaient vers le même lieu, et du coup, ça a donné lieu à un embouteillage monstrueux. C'est rigolo, parce que c'est comique de lire ça, de lire que oh, les hackers ont créé un embouteillage. Mais en même temps, moi, ça me fait penser... Enfin, il faut se préparer à ce genre de choses parce que ça peut créer, je ne sais pas, lors d'un événement politique ou lors d'un truc, si tu veux.
Ça avait été fait par un mec qui avait mis plein de smartphones dans...
Oui, mais là, c'est un embouteillage virtuel.
Oui, oui, c'est vrai. Ouais,
là, c'est un vrai embouteillage.
Ouais, je le vois. Ouais. C'est vrai.
Et ce dont tu parlais, c'était un type qui avait mis plein de smartphones pour laisser penser à Google Maps qui avait un bouchon. Là, c'était un vrai bouchon qui a été créé par le truc. Mais ouais, donc j'ai trouvé
ça. Mais ça montre à quel point, effectivement, tu peux détourner un outil pour en faire autre chose. Enfin, et là, l'exemple que tu donnes, c'est effectivement un jour où, par exemple, une manifestation doit être organisée ou un défilé ou je ne sais quoi, tu peux arriver à boucher une artère complète juste en commandant des dizaines et des dizaines de VTC, quoi.
Ouais. Et c'est juste, c'est hyper facile. Il faut pouvoir le faire. Mais c'est un truc qui est accessible. Et ce n'est pas que c'est impossible à contrer. Évidemment que c'est possible. Mais il faut que les services de VTC et ou les villes soient conscientes qu'une attaque de ce type peut arriver et se prémunissent contre ça. Donc, je trouvais ça marrant comme conclusion pour l'épisode. Merci à tous les trois d'avoir participé avec des gros sujets. Et on a évité de parler trop de la conférence d'Apple de demain. Hein. Vous remarquez, j'ai réussi.
Oh là là, on va avoir plein de surprises. On ne s'attend pas du tout à ce qui va être annoncé demain. Hein.
On n'a pas vu d'image en plus. Enfin,
du tout. On n'a pas vu les rendus 3D de l'Apple Watch Pro et de l'iPhone 14 Pro. Pas du tout.
Ah, il y aura une molette ou pas, vous pensez?
Il y aura une quoi?
Une molette.
Une molette. Il y aura un deuxième bouton sur la... deuxième bouton
Mon
sur l'Apple
Dieu,
Watch
quelle
Pro.
Révolution.
Incroyable. Révolution. Ça, c'est ça le courage, va nous dire... comment il s'appelle? Phil... merde.
En vrai, parce que là, on fait les cons, mais en vrai, un deuxième bouton sur l'Apple Watch, c'est peut-être le truc qui m'intrigue le plus dans...
Ouais.
Dans tout le reste, parce que alors franchement, la taille des trous sur les écrans, j'en ai tellement marre de ces histoires de trous sur des écrans, des poinçons, des trucs, mais je sais pas ce que les archéologues du futur vont penser des chroniqueurs tech des années 2020. Et ils étaient là à faire des vidéos entières sur des diamètres de trous dans des écrans, quoi. Sérieux, quoi.
Écoute, on verra si tu nous parleras des diamètres des trous dans les écrans dans tes prochaines vidéos Nowtech.
Bah bien sûr, je veux faire de la vue, mec.
Bon, super, merci. Bah écoutez, justement, Jérôme, où retrouve-t-on tes diamètres de trous
Les diamètres de trous, la phrase qui dérape.
C'est vous qui avez commencé.
Pense toujours au 1%, Patrick, qui détourne tout. Donc, vous pouvez retrouver Nowtech, chaîne YouTube, chaîne Twitch qui s'appelle Nowtech Team sur Twitch. On a repris les émissions lundi tous les matins, le mug à 8h du matin jusqu'à 9h30. Demain soir, nous aurons le plaisir d'avoir Patrick et Guillaume qui vont faire une after keynote. Donc après la keynote Apple, une digestion et une régurgitation de la keynote par Patrick et Guillaume. Moi, je serai là le lendemain matin pour faire une deuxième digestion des annonces d'Apple. Donc voilà, tout ça,
c'est le site de Nowtech. Est-ce que tu vas réingérer la régurgitation qu'on a fait la veille ou tu vas, toi, ingérer la...
Tu sais qu'il y a un film hein, là-dessus, hein, ça s'appelle...
D'accord, ok. Très bien. Et donc, Nowtech.tv, Nowtech sur YouTube et sur Twitch, Nowtech Team. Magnifique. Quelle heure la conférence Apple ? Mercredi, 7h, heure de Paris.
Ouais. 19h. Et donc, l'after keynote, ça sera quand Tim Cook aura fini ?
21h, a priori.
Ouais, maintenant, ils font des conférences qui durent 2h. Hein,
ah non,
hein.
Bah oui, non, mais c'est Patrick, ça, donc 2h...
T'es pas couché demain. Hein.
Mais tu sais que c'est pour ça que j'ai hésité à dire oui. C'est que je me disais, mais si jamais les enfants passent une mauvaise nuit, moi, je vais être KO, et le lendemain, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Mais bon.
Eh bah écoute, t'engueuleras Tim Cook.
Voilà,
c'est de sa faute. C'est de sa faute.
Cédric, où te retrouve-t-on ? Yes. Je vais arrêter de parler.
Vraiment, on me trouve pendant le keynote sur keynote.cédricdeluca.fr puisque nous n'avons plus le droit de retransmettre le keynote et du coup sur ma chaîne Twitch, Cédric Deluca, où je commenterai moi le keynote et après j'irai retrouver ma femme. Voilà, donc rien à voir avec. Je suivrai évidemment la régurgitation de la digestion de Patrick sur la chaîne Nowtech. Avec grand plaisir, mais voilà, moi je commenterai le keynote avec un petit montage où sur cette page, en fait, vous avez le player vidéo YouTube que vous pouvez lancer. Et en bas à droite, là, c'est blanc sur ta capture, c'est le player Twitch que vous lancez aussi. Et comme ça, vous pouvez même régler le volume sonore. Si vous, vous entendez trop la conf, vous pouvez baisser la conf. Ou voilà. Ah, bien, moi, il y a le chat en même temps.
Ouais, c'est super bien fait cette page et tu peux même resizer et tout. J'avais fait un truc rudimentaire avec.
Resizer, masquer le truc et tout, tu vois. Et, ouais. Et tu peux bouger le player. Sous le player, en fait, tu peux bouger les.
Wow. J'ai un peu l'impression qu'avec ces histoires de blocage sur Twitch, on revient. Je sais pas si tu te souviens, Cédric, mais à l'époque où il y avait des interdictions. Enfin, ils retransmettaient.
Il y avait des messages d'avocat au début. Et nous, on disait, ouais, c'est ça, ouais.
Et même, on n'avait que les images qui fuitaient de journalistes qui prenaient leurs photos en se cachant derrière leur fauteuil.
C'est ça, c'est ça.
C'était la contrebande.
C'était drôle. C'était drôle cette époque. Voilà, quand on les couvrait avec les blogs, les live blogs des journalistes, ouais.
Ouais, si jamais Patrick ou Jérôme ou même Corben, je pense que ça, c'est un truc qui est complètement à sa portée. Si vous voulez l'outil que moi j'utilise pour monter cette page, c'est avec grand plaisir que je vous le partage.
Ah bah, écoute,
ça peut être intéressant.
Ça peut être pratique, oui, effectivement.
Vous pouvez le customiser comme vous voulez.
Très très beau. Moi j'avais un truc complètement rudimentaire, c'était notepatrick.com/live où j'avais juste les deux embeds, je crois. Est-ce que c'était ça ? Et oui, c'était ça, les deux embeds pour un event d'il y a 12 ans que j'avais fait comme ça.
D'accord.
Mais, parce que je m'étais fait. Bah, tu sais que je me suis fait striker par Apple, moi, sur Twitch.
Moi aussi.
Ah oui,
j'ai monté ça.
Et bah, c'est bien pour ça que maintenant, nous, on se spécialise dans la digestion de keynote.
Mais j'ai contacté les avocats d'Apple et j'ai réussi à leur faire virer le strike. Je suis assez
sans, fier. Sans l'aide des équipes de Twitch ?
Sans l'aide des équipes de Twitch, je l'ai fait moi-même. Les équipes de Twitch n'étaient pas hyper utiles. Je l'ai fait moi-même. Ouais.
Mais il faut savoir que ce ne sont pas les seuls à striker hein, sur Twitch. Hein, Apple.
Ouais. Donc, cet outil d'embed est bien pratique. Cédric Deluca.
Ah, complètement.
Keynote.cédricdeluca.fr, il est super beau. Et Corben, enfin, toi, tu vas bien sûr rester réveillé toute la nuit pour suivre Tim Cook dans ses pérégrinations de conférences Apple.
Ah bah oui, comme à chaque fois, hein, tu me connais bien, je vois. Non, j'en ai un peu rien à cirer, mais bon, je regarderai les résumés comme d'habitude, tu sais, c'est toujours pas mal.
Tout à fait. Mais du coup, on est sur Corben.fr. Qu'est-ce qui se passe sur Corben?
Non, point info.
Point info, pardon.
Non, mais je partage même,
tu vois, je me suis... Tu vois, je ne me suis pas trompé, Corben. Hein. Moi, dans le chat, j'avais mis le bon.
Bah ouais,
fidèle, tu vois, je lis tout ce que tu fais.
Non, je partage toujours mon temps entre le site, corben.info, Twitch. J'ai repris, du coup, là, les Twitch le lundi, le mardi et le jeudi après-midi. Et puis le Patreon. Voilà, je bosse beaucoup pour les Patreons. Je leur fais des vidéos, des petits articles exclusifs, des petits trucs. Voilà.
Magnifique.
Donc, mon temps est précieux et j'en ai pas beaucoup.
D'accord, et tu travailles beaucoup, c'est très bien. Merci à tous les trois, on aura les liens vers vos comptes Twitter dans les notes de l'émission, évidemment, comme à chaque fois. Pour ma part, c'est NotePatrick partout et NotePatrick.com pour avoir les liens vers tout ce que je fais, les podcasts et tout ça. Et surtout, vous avez NotePatrick, vous avez Patreon.com/RDVTech pour soutenir l'émission. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire tout de suite depuis votre smartphone ou quand vous rentrez chez vous. Cling, les clés dans le bol. Patrick, patreon.com/rdvtech. Peut-être que je devrais faire patreon.com, notepatrick.com/patreon. Je ne sais pas si ça serait facile à retenir, mais bon. Allez, le lien est dans les notes de l'émission de toute façon, donc c'est vraiment super simple. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, et vous toutes, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, par contre, on risque de parler des annonces d'Apple. Ça, on a été sage, on parlera d'autres choses aussi, mais on a été sage, on risque de faire ça la semaine prochaine. On vous fait des bises, et à très bientôt. Ciao, ciao.
Ciao tout le monde.
Ciao, ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.